Il est 1h.
Phare FM.
C'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement.
La Bible dit:
heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Fear's got me living with the lights out. Chained down like a prisoner in my own house. Shame cycles like a deadly medication. I try but I can't change my situation. Cause that liar comes to rob my joy. Yeah, I'm bruised but I'm not destroyed. I'm rising like an army and you're gonna hear the sound.
What the enemy stole. Oh, you can't speak your lies over my family, no. You can't break the promises that I'm standing on.
Ain't got a flex to put you back in your place now. One name is all I gotta say. Jesus.
You took from me in the name of the one who is peace, the one who heals our disease, the only reason that
thank you.
ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, on fait comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir. Comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller.
Savoir aimer, Florent Pagny, toujours sur Phare FM dans la nuit autrement, et on poursuit avec Copland, Disjointed.
Minuit 5 heures, la nuit autrement,
avec Mireille.
Going under, and I will breathe you.
Just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no lie. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes, my angel of light. I was all alone.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Christian Gagneux.
Je voudrais partager un thème avec vous, sois une lumière. J'aimerais simplement qu'on commence par ouvrir notre Bible dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. On va lire les 5 premiers versets. Il est écrit là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. La lumière a été créée par Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Longtemps avant la création de la flore, de la faune, avant même la création du temps tel que nous la connaissons avec le soleil et la lune, la lumière est apparue dès le premier jour. Dieu créa la lumière, lumière qui n'a rien à voir avec le soleil, je le répète. Le mot lumière apparaît 190 fois dans la Bible. On voit combien que ce mot est important. Peu de choses créées sont plus extraordinaires que la lumière. Elle est essentielle à la vie. Elle est importante pour la croissance des choses qui sont autour de nous et même pour la croissance de l'être humain. Elle est nécessaire à l'existence, au confort et à la joie. La lumière est souvent associée à Dieu lui-même, notamment dans la déclaration absolue de la Bible qui dit que Dieu est lumière. Dans le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 5, le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen. Dieu est nommé le Père des Lumières. Et on trouve cela dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, c'est-à-dire Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni éclipse. De même, Jésus-Christ est la lumière véritable. Là encore, c'est une affirmation biblique. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. La lumière produit la vie. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ produit la vie en nous. Jean, chapitre 12, verset 46. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Là encore, c'est une affirmation de Jésus qui dit clairement qu'il est la lumière du monde. Ensuite, la parole de Dieu est également comparée à une lumière qui, avec sa puissance d'éclairage, communique aux hommes les commandements et les jugements de Dieu. Dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon sentier. » Amen. Proverbe 6, verset 23, un texte ressemblant. « Car les préceptes, c'est-à-dire les commandements de Dieu, sont une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction, le chemin de la vie. » Dieu, en Jésus-Christ, est lumière. La parole communique également la direction de Dieu. Et ça, nous pouvons le trouver dans Ésaïe, chapitre 58, verset 10. « Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. » En clair, Dieu nous enseigne à faire du bien autour de nous. Pas seulement en parole, mais également en acte. Dieu attend de nous que nous mettions en application ses commandements, ses préceptes. La lumière de la parole de Dieu nous rend prospères et remplis de joie. Encore dans le livre d'Ésaïe, toujours le même chapitre, mais juste deux versets avant. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et tu te rétabliras bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. » Enfin, la lumière est une image des chrétiens devenus fils de lumière. En acceptant Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes devenus des fils de lumière. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous. Matthieu, chapitre 5, verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est toi, c'est moi, mon frère, ma sœur, qui sommes appelés la lumière du monde. C'est Jésus qui nous dit cela. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. La lumière, mes amis, elle attire les gens, n'est-ce pas? On est attiré par la lumière plus que par les ténèbres. En tout cas, je l'espère. Lorsqu'on est dans un endroit ténébreux, la première chose que l'on cherche, c'est la lumière. Et enfin, quand on voit un petit filet de lumière, moi, ça m'arrive quelquefois de me lever la nuit, eh bien, je cherche à tâtons mon chemin et je suis content lorsque je vois un rayon de lumière, jusqu'à l'interrupteur en tout cas. Et quand la lumière vient, eh bien, je peux aller d'un pas rassuré. Éphésiens 5, 8. Et également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, il nous est écrit là, « Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. » Je voudrais m'arrêter et développer quelque chose de très intéressant qui concerne notre pays. D'abord, avant tout, Jésus nous a donné un ordre, un commandement qui nous intéresse tous. Commandement que l'on trouve dans Actes chapitre 13, verset 47. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Il est écrit là, « Car le Seigneur nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Il parle là aux disciples. Nous sommes appelés disciples de Christ si du moins nous l'avons accepté comme sauveur et roi. Cet ordre nous est donné à nous personnellement. Car le Seigneur nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut juste aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela que nous voulons travailler avec ardeur partout où Dieu nous envoie, partout où il ouvre des portes. Nous ne voulons pas rechigner sur le travail. Nous voulons, eh bien, obéir à ce que Dieu veut, sans négliger nos arrières. Nous voulons faire vraiment la volonté du Seigneur. Il nous demande, c'est un ordre. Nous devons être des lumières. La Bible nous parle d'un autre personnage qui était rempli de lumière. Il s'agit de Satan, déguisé en ange de lumière. N'oublions pas que le nom de Satan était Lucifer. Lucifer veut dire astre brillant. Dans le livre des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il est écrit là, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. S'il se déguise en ange de lumière, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour chercher à détruire qui il pourra détruire. » Satan, la Bible nous l'enseigne, est le destructeur, le voleur, le menteur. Son seul but, c'est de tuer. Pas seulement physiquement, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est tuer spirituellement. Il veut absolument nous éloigner de Dieu. Appelé Lucifer ou astre brillant, dans Ésaïe 14, verset 12, Jésus nous invite tous à avoir beaucoup de discernement afin de pouvoir démasquer et éviter les pièges du diable. Nous n'avons pas le droit de minimiser la puissance du malin. Il a une longue carrière devant lui et il sait très bien ce qu'il fait. Dans quel temps sommes-nous aujourd'hui? Le cas de la France est très intéressant. Pendant que je préparais ce thème, Sois une lumière, et j'ai découvert des choses très intéressantes concernant notre pays de France. Chose que je voudrais développer, en tout cas quelques points succinctement avec vous. Pour que nous comprenions bien comment que Satan fonctionne et combien ce que dit Dieu est important et combien nous devons faire très attention à ce qui se passe autour de nous. Si Jésus nous demande d'avoir du discernement, ce n'est pas pour rien. Et j'ai trouvé très intéressant ce que je vais vous partager. La France, au XVIIe siècle, fin du XVIe et une grande partie du XVIIe siècle, un vent de l'esprit a soufflé sur notre pays de France et beaucoup de gens ont été touchés par la grâce de Dieu, essentiellement dans les Cévennes et dans une grande partie du sud de la France. Très vite, bien, les armées du roi Louis XIV ont essayé d'arrêter ce réveil. Des enfants même prophétisaient avec une précision incroyable. Des enfants qui ne savaient pas parler et qui ne parlaient surtout pas le français. À l'époque, ils parlaient l'occitan dans le sud de la France. Eh bien, avaient des prophéties en français. Tout se réalisait. Il se passait des choses extraordinaires. Il y avait un réveil merveilleux. Les gens se convertissaient par centaines et par milliers. Et on a essayé d'étouffer, d'arrêter cette visitation de Dieu. Et on a envoyé les soldats du roi, les dragons. Louis XIV a envoyé 25 000 hommes pour essayer d'anéantir une petite armée de camisards de moins de 5 000 hommes. Résultat, ils n'y sont pas arrivés parce que Dieu combattait avec eux. Satan, n'ayant pas pu arrêter ce mouvement par la force, va trouver une ruse tout autre que nous subissons encore aujourd'hui. Et je cherchais donc des choses sur la lumière et voilà ce que j'ai trouvé. Au XVIIIe siècle, notre pays a commencé à être traversé par un nouveau courant de pensée. Et aujourd'hui, nous en subissons directement les conséquences. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de la pensée des Lumières. La pensée de lumière qu'on a appelée plus tard le siècle des Lumières. Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières ? L'expression était déjà fréquemment employée par les écrivains de l'époque, convaincus qu'il venait d'émerger de siècles d'obscurité et d'ignorance, et ils étaient convaincus d'entrer dans un nouvel âge, illuminé non pas par la lumière de Dieu, mais illuminé par la raison humaine. Ils sortaient donc de l'ignorance, en tout cas ils le croyaient. Les philosophes des Lumières veulent étudier le monde concret et tout examiner à la lumière de la raison. Et le maître mot de ces philosophes est l'entendement, qui désigne la faculté de connaissance de l'homme. À aucun moment on fait référence à Dieu, simplement l'être humain. Les Lumières impliquaient une attitude, une méthode de pensée. Selon Emmanuel Kant, le mot d'ordre du siècle devait être « ose savoir ». Il apparut le désir de réexaminer et de remettre en question toutes les idées et les valeurs reçues. Il fallait tout remettre en question, essentiellement, bien sûr, la foi, essentiellement, Dieu. Et c'est avec beaucoup de finesse que le diable a arrêté lentement les réveils qui y avaient lieu en France. C'est en France que les idées des Lumières s'épanouissent dès le début du XVIIIe siècle. Montesquieu commence à critiquer l'absolutisme. L'absolutisme, c'est de dire que Dieu et que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est une vérité absolue. Voltaire condamne le fanatisme et les pratiques judiciaires abusives. En tant que chrétiens convaincus, donc, nous étions considérés comme des fanatiques. La plupart des philosophes sont déistes, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence d'un Dieu, mais en dehors de toute religion, et critiquent la superstition et l'intolérance religieuse. Dans la seconde partie du siècle, Jean-Jacques Rousseau renouvelle la pensée des Lumières et il imagine une cité idéale. Voilà, j'ai pris juste un extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau de son livre premier, écrit entre 1712 et 1728. Juste quelques phrases, deux phrases. « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur, je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Et si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. » Cela nous montre combien ces hommes qui, par des simples pensées, sont arrivés peu à peu à bouleverser beaucoup de choses dans notre pays de France. Quelques faits marquants résultant des Lumières, du siècle des Lumières. Les idées des Lumières ont progressivement pénétré toutes les couches de la société. Tout doucement, le rationalisme, c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, la foi donc est quelque chose d'irrationnel, on la met de côté. Le rationalisme et le progrès, l'aspiration à plus de liberté et d'égalité, se répand partout, y compris dans l'aristocratie. Le siècle des Lumières a fait aboutir la Révolution française en 1789. Tous les historiens sont d'accord pour dire que c'est le siècle des Lumières qui a apporté la Révolution française. Les Lumières léguèrent un héritage durable au XIXe et au XXe siècle. Cet héritage marqua d'abord, premièrement, le déclin de l'Église. Ensuite, au XIXe siècle, il y a la naissance de la devise bien connue aujourd'hui chez nous, « Liberté, égalité, fraternité ». On peut faire une photographie de notre société aujourd'hui. On est loin de l'égalité, on est loin de la liberté et on est loin de la fraternité. Ensuite, on va prononcer la mort de Dieu. Rappelons que c'est à Hegel que revient la primeur d'avoir prononcé la mort de Dieu dans « Croyance et savoir ». Il y tient pour responsable les Lumières et plus particulièrement le philosophe Kant. Ensuite, il y a eu la naissance de la laïcité. Avec le siècle des Lumières apparaît également quelque chose de très important, le libertinage. On a commencé à dire que le libertinage était quelque chose de bon. Une autre chose très importante qui arrive dans le 19e siècle, le divorce des philosophes emprunts de l'esprit des Lumières, comme Montesquieu et Voltaire avant, se prononcent en faveur du divorce, estimant que le maintien d'époux en discorde dans le lien du mariage est peu favorable à la fécondité et contraire à la nature humaine. Les pensées des Lumières à la française se sont ensuite propagées dans tout le monde occidental, d'abord en Europe, puis aux États-Unis et dans tout le monde occidental. Plus loin, ça fait plus partie des siècles des Lumières, mais pour moi, ce sont encore des conséquences, et nous vivons en plein dans ces conséquences. Il y a eu mai 1968, que beaucoup d'entre nous avons connu. C'était une autre révolution française, même si on lui prête pas ce nom de révolution, c'en était une en réalité, qui a bouleversé énormément de choses. Le mot d'ordre de cette révolution, c'était « Il est interdit d'interdire ». Il s'en suivit toute une série de changements importants dans notre société, de manière très discrète, très lente. Il y a eu d'abord le mouvement des femmes, le MLF. Après cela, eh bien, on a libéralisé l'avortement. Ensuite, l'interdiction pour les maîtres d'école et les professeurs de corriger physiquement les enfants. Avant mai 68, eh bien, quand je faisais l'âne, le maître n'hésitait pas à me mettre une bonne raclée, ou me taper sur les doigts, ou me tirer les oreilles, ou me mettre à genoux sur une règle, parce que je faisais le clown. Interdit. Ce sont des conséquences de tout ce que nous venons de voir ensemble, et une dégradation morale qui arrive lentement, mais sûrement. Deux siècles, trois siècles, mais elle est là. Résultat, nous n'arrêtons pas d'en subir les conséquences et, à mon avis, si on ne revient pas en arrière, des temps extrêmement pénibles sont à notre porte. On voit ce qui se passe autour de nous. C'est une photographie que tout le monde peut faire. Simple, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Que dit la Bible, par exemple, par rapport à la sanction des enfants ? Prenez avec moi le Proverbe 22, verset 15. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Voilà ce que dit la Bible. Un autre proverbe, juste le chapitre plus loin. Proverbe 23, versets 13 et 14. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Dans sa parole, on a fait juste le contraire de ce que Dieu nous enseigne. Et aujourd'hui, tout le monde crie au malheur, tout le monde crie au désastre. Mais tout simplement, on ne veut plus écouter la parole de Dieu. On a rejeté la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à nous pencher sur ses préceptes et ses commandements. Nous l'avons lu ensemble. Alors, le siècle des Lumières est-il bon ou mauvais ? Chacun se fait son opinion. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu des progrès sociaux grâce au siècle des Lumières. Mais là-dedans, je reconnais bien le diable qui se déguise en ange de lumière pour faire passer sa volonté de destruction, de malheur, de misère et de désastre sur le plan individuel, mais aussi sur le plan des nations. Son but est de détruire un maximum de personnes. Dieu nous demande dans sa parole d'avoir du discernement. Il nous demande de discerner les choses. Observons ce qui se passe autour de nous, réfléchissons et prenons les choses à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, et posons-nous des questions essentielles, posons les questions à Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de cela ? Dans quel sens je dois aller ? Dois-je accepter telle ou telle chose ? Juste avant de venir, une sœur me téléphone, elle me dit, elle était outrée. Elle voyait le devoir de l'un de ses enfants. Le devoir consistait à faire tout un rapport sur les sorcières et sur les bienfaits des sorcières et des sorciers dans notre siècle aujourd'hui. Elle a refusé que son enfant fasse ce devoir. Elle a été immédiatement convoquée à l'école. Elle s'est fait sermonner. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que je dois maintenant dire à mon enfant faire ce devoir? J'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, pour moi, je lui ai donné mon opinion. Et je lui ai dit, mais rappelle donc à ses professeurs que l'école est laïque en France. C'est pas nous qui avons voulu que l'école soit laïque, c'est eux. Alors qu'ils restent dans leur laïcité. Parce qu'en parlant des sorcières et des sorciers, on parle de spiritualité. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. Alors que la laïcité se veut rationnelle. On sort du rationnel pour entrer dans quelque chose qui n'est pas du tout rationnel, mais qui est spirituel. Pour ma part, dans le siècle des Lumières, eh bien, je vois combien que le diable a réussi avec beaucoup de finesse à enlever tous les points de repère pour les gens. Au fur et à mesure que le temps passait, il a réussi à enlever toutes les bornes, tous les panneaux directionnels, tous les garde-fous qu'il y avait, et il a réussi à les enlever. Et si nous, en tant que chrétiens, nous n'apportons pas la lumière dans ce monde, mais qui va le faire? J'étais tellement heureux de voir ces jeunes comprendre parfaitement leur rôle et eux-mêmes faire des propositions pour devenir des vraies lumières là où ils sont placés, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail qu'ils rencontrent. Ils n'ont pas peur de l'évangile. Et nous n'avons pas à avoir peur de l'évangile parce que Dieu est clair. C'est lui la lumière du monde, et lui seul, il n'y en a pas d'autre. Je crois que la France, qui a été visitée de manière merveilleuse par Dieu, a été touchée de plein fouet par la ruse méchante du diable. Mais je crois aussi que notre pays va de nouveau être visité par Dieu. Je le crois parce que Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je crois et je me prépare pour une visitation de l'Esprit de Dieu sans précédent. Nous avons besoin d'entrer pleinement dans ce que l'Esprit de Dieu veut de chacun de nous. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, pour ma vie. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je n'ai pas le droit de me reposer sur mes lauriers. Rachetez le temps, nous est-il écrit dans la parole de Dieu. Jésus seul est la lumière du monde, la seule, l'unique. Il n'est pas les lumières avec leur triste bilan que l'on vient de dresser ensemble. Il est la lumière. La seule, l'unique, la créatrice, celle qui apporte la vraie joie, la vraie paix, la vraie espérance, la vraie puissance. Matthieu, chapitre 5, verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors, comment être ou devenir une lumière? Premièrement, en restant attaché de très près à l'enseignement de la parole de Dieu, à l'enseignement de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Restons attachés à ce que Jésus nous a enseigné. Ses commandements sont simples. Il nous a laissé un commandement ultime. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous appliquons ce seul commandement, les 10 commandements de Dieu sont inclus dans ce commandement que Jésus nous a donné. Si Dieu est réellement le premier dans ma vie, s'il est mon but, s'il est mon leitmotiv, jour après jour, eh bien alors, je vais devenir une lumière. Sans parler, les gens vont voir, vont sentir, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce que c'est cet esprit qui est sur lui? Qu'est-ce que c'est cette paix qui dégage? Mais quel est ce rayonnement qu'il y a en lui? Je le veux aussi, je le cherche. Deuxièmement, en nous détournant du péché sous toutes ses formes, ne vous laissez pas impressionner par le monde. Et je sais que pour les jeunes, il y a une pression terrible. Les tentations sont énormes. On peut analyser tous les domaines. Le diable s'est immiscé absolument partout. Que ce soit dans le visuel, que ce soit dans l'auditif, dans tout, le diable s'est immiscé partout. La pression est énorme. On a banalisé la sexualité pour les adolescents de 12, 13, 14 ans. On leur donne des petits manuels pour leur expliquer simplement qu'il faut se protéger, mais que les relations sexuelles sont tout à fait normales à 12, 13 ans. À 18 ans, ils en ont fait le tour, ils ont goûté à tout, ils sont dégoûtés, ils n'ont plus d'espoir. La pression est énorme, mais je sais que Dieu est en train de lever une armée chez les jeunes qui va nous surprendre. Troisièmement, en cherchant la puissance du Saint-Esprit qui nous fera vivre des expériences. Expériences qui vont renforcer notre foi. Nous avons besoin personnellement de faire des expériences. Vous avez besoin d'entendre des témoignages de gens guéris, de gens sauvés, de gens qui ont entendu ou vécu des choses merveilleuses. Mais vous-même, vous avez besoin de faire des expériences avec Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'entendre des expériences des autres. C'est chacun de nous qui devons faire des expériences quotidiennes avec notre Dieu. Demandons le Saint-Esprit de devenir vivant dans nos vies, de se manifester avec force et puissance. Quatrièmement, n'ayez pas peur de l'ennemi, quel qu'il soit. Si Christ est en nous, nous sommes d'office vainqueurs. Même s'il y a un prix à payer, souvent il y a un prix à payer, un prix lourd parfois. Ces camisards remplis de l'Esprit de Dieu, pourchassés par les dragons du roi, ont dû parfois se battre. Et ça a coûté la vie de quelques-uns. Il y a un prix à payer, mais la victoire est au bout. Et notre victoire suprême, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu et dire, Seigneur, voilà, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'ai servi avec toutes mes forces, avec toute mon âme, et aujourd'hui je suis heureux de te rencontrer. Soyons prêts à payer le prix. Cinquièmement, soyons des exemples pour tous ceux qui nous entourent. Soyons des modèles, des exemples, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans tout ce que l'on peut faire. C'est pas tant ce que nous disons qui est important. Ce sont nos faits, nos gestes, nos réactions qui sont observées par les gens. Les gens nous observent et nous observons les gens, c'est réciproque. Et à force de les voir vivre, nous savons ce qu'ils valent. Et il y a ce que les gens disent et ce qu'ils sont en réalité. Faisons en sorte, en tant que chrétiens, que nos paroles soient accompagnées de nos actes et que nous ressemblions vraiment à des chrétiens. Enfin, soyons remplis d'amour les uns envers les autres, en premier envers nos frères et sœurs, en Christ. Si quelqu'un vous traite en ennemi, n'ayez pas peur, mais priez pour lui. Je vais m'arrêter là, le temps est passé, mais je vous invite simplement à lire ce que l'apôtre Jean donne dans ses épîtres comme une description détaillée de la marche dans la lumière. Et vous verrez dans ces épîtres, eh bien, que Jean nous enseigne, il nous donne cette description détaillée de la marche dans la lumière. Le croyant authentique pratique la justice, il mettra l'accent dessus, il aime son frère, sa sœur, et il refuse d'aimer le monde. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de rechercher en Dieu le confort. Et ça n'existe pas. On ne vient pas au Seigneur pour améliorer notre quotidien, je le dis quelquefois. La Bible est claire, si on est sauvé, c'est pour servir. On est sauvé pour sauver d'autres avec nous. Voilà le but de Dieu dans notre salut. Donc, l'apôtre Jean va nous faire une description très claire. Comment être une lumière au travers de ses épîtres? Le chrétien refuse d'aimer le monde et il s'attache par une foi indéfectible à Jésus-Christ, le roi des rois. Rien ne peut l'ébranler, ni même la pression, ni même pour certains la torture. Paul nous rappelle que pour lui, lorsqu'il était dans l'abondance ou dans la disette, sa foi, son espérance en Dieu restait toujours la même, d'une stabilité parfaite. Sa joie était parfaite dans l'abondance comme dans la disette. Vous connaissez la vie de Paul, vous avez vu, bien sûr, parfois il a mangé à la table des grands, il était invité chez des personnes importantes de l'époque, mais parfois aussi il a été frappé, laissé pour mort à deux reprises, on lui a jeté des pierres, on l'a enfermé, on l'a mis en prison, et il a très certainement fini décapité. Il disait que pour lui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, sa joie était parfaite en Jésus-Christ. Et en tant que vrai chrétien, rempli de lumière, notre joie est toujours parfaite. Quels que soient les passages difficiles que nous pouvons avoir dans notre vie, et on a des passages difficiles, je suis un humain comme vous, j'ai également des passages difficiles dans ma vie, parfois les choses ne sont pas simples, Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a fait des promesses pour ses enfants et ses promesses se réalisent parce qu'il n'est pas un menteur. Il est Dieu, le Dieu qui tient à sa parole et qui accomplit sa parole. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Par FM, la radio autrement.
The keys, no need to hang on to what I no longer need. That old house is empty, it's a thing of the past. I don't need a rearview mirror, cause I ain't never looking back. No, I don't need a rearview mirror, cause I'm not ever looking back. I'm packing my bags, moving on to Hope Road. No stopping me now, cause I'm already sold. He's taking
bust through those windows. Go ahead and tear down that door. All the chaos that lives here ain't my chaos no more. Got a mansion that's paid for by the blood of my Savior. You can post it on the front door. I can see it in my mind. Gonna walk it with my feet. I'm all read. You won't find me here no more.
I'm packing my bags, moving on to Hope Road. No stopping me now, cause I've already sold. He's taking my life to a whole new zip code. I'm packing my bags, oh, I'm packing my bags. Packing my bags, moving on.
Sur Phare FM, il est pratiquement 2h10. On poursuit en musique Corinne Simon, Chien et Chat.
C'est l'atmosphère qui rend mon cœur si fragile. Je ne peux pas le croire comme ça me démange. C'est l'atmosphère qui rend mes pensées si futiles. Il y a de l'amour dans l'air et ça me dérange. J'aime pas les fourmis, encore moins dans le ventre. Ça chatouille et moi, je préfère la bagarre. Mais tu me souris et ça me déconcentre. C'est devenu si rare
Life is many a curious thing. Everyone wants a diamond ring. Everything that you think you need, but you still don't feel so happy. Furs and leathers, they're all so nice, but they can't change the weather in your heart. Cold as ice, I've been there many times before, but I finally found the answer. Well, there's money in the pocket, diamonds in the drawer. Still you're feeling empty, nobody knows why. Until you find the answer, I think you need to know. You can gain the whole world, but you cannot save your soul. Money in the pocket, diamonds in the drawer. Still you're feeling empty, nobody knows why. Until you find the answer, I think you need to know. You can gain the whole world, but you cannot save your soul. No, no. No, no. Joy in the things you buy. You can't fill that void with the car you drive. You can shop till you drop, but you will not find the answer to your question. Now I can see where you're standing, my friend. You need something more on what you can depend. There's a God up above who gave all of his love so that we could know the answer. Well, there's money in the pocket, diamonds in the drawer. Still you're feeling empty, nobody knows why. Until you find the answer, I think you need to know. You can gain the whole world, but you cannot save your soul. Money in the pocket, diamonds in the drawer. Still you're feeling empty, nobody knows why. Until you find the answer, I think you need to know. You can gain the whole world, but you cannot save your soul. You cannot save your soul. You cannot save your soul. Oh no, no, no. Oh no.
Quelqu'un qui dirige et qui aime simultanément exige qu'on mette sa femme à la première place sur la liste des priorités. Christ est notre modèle. Il a aimé l'Église et s'est donné pour elle. L'Église est sa priorité. Il a versé son sang pour l'Église et maintenant, étant notre Sauveur monté au ciel, il prie pour nous. Quel bon exemple! Par conséquent, le mari qui prend la Bible au sérieux fera de sa femme sa priorité. Au cours de la journée, il se posera la question « Que puis-je faire pour mettre sa vie en valeur ? » Il priera tous les jours pour elle. Il encouragera ses activités louables. Il la félicitera pour le travail accompli. Tout comme Christ déverse sur nous en abondance ses bénédictions chaque jour, le mari, en tant que dirigeant plein d'amour, inondera sa femme de gestes et de mots qui lui disent « Je t'aime ». Et elle se soumettra à cette direction.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Maudit de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, ma radio.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me.